Virgile, l'Énéide, livre 2, deux extraits de l'épisode du cheval de Troie. Troie croit être libérée des Grecs enfuis, qui par ruse ont enfermé des soldats armés dans les flancs d'un énorme cheval. Certains Troyens proposent d'introduire cette bête monumentale dans leurs murs, mais d'autres, tels le grand prêtre Laocoon, ont compris qu'il s'agissait d'un piège. Mais ce dernier n'est pas écouté, et à cause de l'aveuglement des Troyens, il périra par l'ordre de Pallas. Énée décrit à Didon l'arrivée du cheval, puis la mort du grand prêtre. Mais si de nos malheurs vous exigez l'histoire, s'il faut en rappeler l'affligeante mémoire, quoiqu'au seul souvenir de ces scènes d'horreur, mon cœur épouvanté recule de terreur, j'obéis. Rebuté par 10 ans de bataille, las de languir sans fruit au pied de nos murailles, las de voir par le sort leurs assauts repoussés, les Grecs, courbant des ais avec art enchâssé, d'un cheval monstrueux en forme l'édifice. Pallas leur inspira ce fatal artifice. « C'est un vœu, disait-il, pour un retour heureux. » On le croit. Cependant, en ces flancs ténébreux, il cache des guerriers, et de ses antres sombres, une élite intrépide ose habiter les ombres. Une île, Ténédos est son antique nom, s'élève au sein des mers à l'aspect d'Ilion. Avant nos longs malheurs qui sont tombés sur elle, son port fut florissant, mais sa rade infidèle n'offre plus qu'un abri peu propice aux nochers. Là, sur ces bords déserts, les Grecs vont se cacher. Nous les croyons partis. Sur les liquides plaines, nous croyons que le vent les remporte à Mycène. Enfin, nous respirons. Enfin, après 10 ans, Ilion d'un long deuil affranchit ses enfants. Le libre citoyen ouvre toutes ses portes, vole au lieu où des Grecs ont campé les cohortes. On aime avoir ses champs, témoins de revers, ses camps abandonnés, ses rivages déserts. De 100 fameux combats, on recherche la trace. Ici, le fier Pyrrhus signalait son audace. Là, le fils de Thétis rangeait ses bataillons. Ici, c'était leur flotte, et là, leur pavillon. Plusieurs, pressés autour de ce colosse énorme, admirent sa hauteur et sa taille et sa forme. Timète le premier, soit lâche trahison, soit qu'ainsi l'ordonna le destin d'Ilion, des Grecs, favorisant la perfide entreprise, dans nos murs aussitôt, prétend qu'on l'introduise. Mais les plus éclairés, se défiant des Grecs, veulent que sans tarder, ces présents trop suspects soient livrés à la flamme ou plongés dans les ondes, ou qu'on en fouille au moins les cavités profondes. Le peuple partagé s'échauffe en longs débats. Quand, de la citadelle arrivant à grands pas, Laocoon, qu'entoure une foule nombreuse, de loin s'écrie « Ô Troie ! Ô ville malheureuse ! Citoyens insensés, dit-il, que faites-vous ? Croyez-vous qu'en effet les Grecs soient loin de nous, que même leur présence soit exempt d'artifice ? Ignorez-vous leur fourbe ? Ignorez-vous Ulysse, où les Grecs sont cachés dans ces vastes contours, où ce colosse altier qui domine nos tours vient observer Pergame, où l'affreuse machine de nos murs imprudents médite la ruine. Craignez les Grecs, craignez leur présent désastreux, les dons d'un ennemi sont toujours dangereux. » Il dit, et dans le sein de l'énorme machine, lance d'un bras nerveux sa longue javeline. Le trépas siffle, vole et s'arrête en tremblant. La main s'est ébranlée et dans son vaste flanc de ses concavités les profondeurs gémirent. Les Troyens aveuglés vainement l'entendirent, sans cet aveuglement, sans le courroux des dieux, dans le perfide abri des Grecs fallacieux, nous eussions étouffé les complots près d'éclore. Et toi, cher Ilion, je te verrais encore. Par un malheur nouveau, pour mieux nous aveugler, un prodige effrayant vient encore nous troubler. Prêtre du dieu des mers, pour le rendre propice, Laocoro offrait un pompeux sacrifice, quand deux affreux serpents, sortis de Ténédos, j'en tremble encore d'horreur, s'allongent sur les flots. Par un calme profond, fendant l'onde écumante, le cou dressé, levant une crête sanglante, de leur tête orgueilleuse, ils dominent les eaux. Leur corps au loin se traîne en immenses anneaux. Tous deux nagent de front, tous deux des mers profondes, sous leurs vastes élans font bouillonner les ondes. Enfin, de vague en vague, ils abordent. Leurs yeux roulent, ardents de rage et de sang et de feu, et les rapides dards de leur langue brillante s'agitent en sifflant de leur gueule béante. Tout fuit épouvanté, le couple monstrueux marche droit au grand prêtre, et leur corps tortueux, d'abord vers ses deux fils en orbe, se déploie. Dans un cercle écaillé, saisit sa faible proie, la ronge de ses dents, l'étouffe de ses plis. Les armes à la main, au secours de ses fils, le père accourt. Tous deux à son tour le saisissent. D'épouvantables nœuds tout entiers l'investissent. Deux fois par le milieu, leurs plis l'ont embrassé. Par deux fois sur son cou, leur corps s'est enlacé. Ils redoublent leurs nœuds, et leur superbe crête dépasse encore son front et domine sa tête. Lui, dégoûtant de sang, souillé de noir poison, qui du bandeau sacré profane les festons, raidissant ses deux bras contre ses nœuds terribles, exhale sa douleur en hurlements horribles, tel d'un coup impuissant par le prêtre frappé, mugit un fier taureau de l'autel échappé, qui, du fer suspendu, victime déjà prête, à la hache trompée, a dérobé sa tête. Enfin, dans les replis de ce couple sanglant qui déchire son sein, qui défore son flanc, il expire. Aussitôt, l'un et l'autre reptile s'éloignent, et de Pallas, gagnant l'auguste asile, au pied de la déesse et sous son bouclier, d'un air tranquille et fier, va se réfugier.